الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Le goût de la mort. L'invocation du successeur d'Attar. Ô Seigneur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quiconque lit ou écoute le livret « Le goût de la mort », facilite-lui les étapes de la tombe et de l'au-delà. Pardonne-lui, ainsi qu'à ses parents, sans qu'ils aient à en rendre compte. Amin. Bijahi khatamin nabijin, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. L'excellence de la récitation de la salat sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le dernier prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré « Récitez la salat sur moi en abondance. Certes, votre récitation de salat sur moi est en effet le pardon de vos péchés. » Sallu ala al-habib, sallallahu ala muhammad. Chers frères en islam, celui qui a connu la vie goûtera aussi à la mort. Celui qui a marché sur terre la quittera. Et celui qui a vu les attraits de ce monde verra aussi un jour les rideaux de sa vie se fermer. Il a été dit à ce sujet « Al-mautu babun kullu nafsin dakhiluha, al-mautu qadahun kullu nafsin sharibuha ». Traduction « La mort est une porte par laquelle toutes les âmes doivent y passer. La mort est un breuvage que toutes les âmes doivent boire ». C'est effectivement le cas. Tout le monde doit goûter à la mort et mourir. Comme le déclare le Coran « Kullu nafsin dha'iqatul maut ». Traduction « Chaque âme doit goûter à la mort ». Il est dit dans Tafsir Siratul Jinan, ce verset qu'Allah a décrété souligne la mort pour tout être vivant et que personne ne peut y échapper. La mort implique la séparation de l'âme et du corps. Cette séparation s'accompagne d'une douleur intense, une douleur plus forte que tout ce qu'une personne peut ressentir dans le monde. Chers frères en islam, prenons garde par ces quelques récits relatifs à la mort et ses sévérités. Le peuple de Bani Israël défia le prophète Isa alayhi salam en disant « Faites revivre Hazrat Sam bin Nuh pour nous ». Le prophète Isa répondit « Conduisez-moi à sa tombe ». À son arrivée, il fit une invocation à Allah et Sam bin Nuh revint à la vie. Lorsque ce dernier sortit de sa tombe, ses cheveux étaient blancs. Le prophète Isa alayhi salam demanda « Vous n'avez pas connu cette vieillesse à votre époque ?» Il répondit « Oh Ruhullah, lorsque tu m'as appelé, j'ai pensé que le jour du jugement avait peut-être commencé. De peur, mes cheveux ont blanchi. » Le prophète Isa alayhi salam l'interrogea alors sur la mort. Ce à quoi il répondit « Je goûte encore l'amertume de la mort, bien que je sois décédé il y a plus de 4000 ans. » Nous apprenons ainsi qu'Allah accorde au prophète Isa alayhi salam le miracle de ressusciter les morts. Nous apprenons également que les terreurs du jour du jugement sont si sévères que les cheveux de Sam bin Nuh devinrent blancs par crainte de l'éventualité de son arrivée. Nous apprenons également que la mort est d'une telle amertume que même 4000 ans après son décès, Sam bin Nuh pouvait encore en ressentir les effets. La chaleur de la mort, même après la mort. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, déclara une fois, un groupe de Bani Israël passa près d'un cimetière. Après discussion, ils se mirent d'accord. Accomplissons deux unités de prière et faisons l'invocation à Allah afin qu'il ressuscite pour nous l'un des morts qui nous racontera alors ce qu'est la mort. C'est ce qu'ils firent. Au milieu de leur invocation, une personne émergea de sa tombe avec des marques de prosternation apparentes sur son front. « Qu'est-ce que vous me voulez ? » demanda-t-il. « Cela fait 100 ans que je suis mort et je sens encore la chaleur de la mort. Faites l'invocation pour qu'Allah me ramène à mon état antérieur. » Chers frères en islam, la chaleur de la mort est restée sur cette personne pendant un siècle. Dans des circonstances normales, si quelque chose nous fait du mal, ses effets disparaissent au bout d'un certain temps. Or, les effets de la mort durent des centaines d'années. Le bon sens nous dicte donc de toujours nous en souvenir et de nous y préparer pendant que nous en avons la possibilité. Chaque jour, nous entendons parler de personnes qui meurent, mais nous ne pouvons pas en tirer des leçons. Nous ne tirons aucune leçon de nos visites au cimetière, alors que l'objectif premier est de prendre garde. Il est dit dans un hadith « Je vous ai interdit de visiter les tombes, mais visitez-les maintenant, car elles détournent l'attention du monde et rappellent l'un de l'au-delà. » Lorsque nous allons au cimetière, nous ne pleurons pas par crainte d'Allah Azza wa Jal. Alors que notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'assit un jour près d'une tombe et pleura au point que ses larmes bénies mouillèrent la terre sous lui. Le sol se mouilla de larmes bénies. Le compagnon, Barra bin Azib, radiallahu anhu, explique « Nous avons accompagné le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à un enterrement. Il s'assit au bord de la tombe et pleura jusqu'à ce que la terre soit mouillée par ses larmes. « Ô frère, dit-il, préparez-vous à ce genre de choses. » Quand les barbes des pieux se mouillent par les larmes. En visitant les cimetières, On trouve aussi des récits de compagnons, alayhimur ridwan, et des pieux prédécesseurs, rahmatullahi alayh, submergés par la crainte d'Allah azza wa jal et versant des larmes. Lorsque le troisième calife de l'islam, Ousmane bin Affan radiallahu anhu, s'arrêtait devant une tombe, il pleurait jusqu'à ce que sa barbe soit mouillée. On lui demanda « Vous ne pleurez pas en mentionnant le paradis ou l'enfer. Alors pourquoi pleurez-vous lorsqu'il s'agit de la tombe ?» Il répondit « Sachez que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré « La tombe est la première des étapes de l'au-delà. Celui qui y réussit voit les étapes suivantes lui être rendues faciles. Celui qui échoue dans cela trouvera les autres étapes encore plus sévères. » Il a également déclaré « Je n'ai rien vu de plus terrifiant que la tombe. » L'imama se mouilla par les larmes. Le savant, Yazid al-Raqashi, rahmatullah alayh, s'approchait des tombes et disait « Ô toi qui trouves du réconfort dans tes actions, dans l'estomac de la terre, si seulement je pouvais savoir sur laquelle de tes actions tu t'es réjoui et lequel de tes frères tu as admiré. » Il pleurait alors jusqu'à ce que son imama soit mouillé par les larmes. Dès qu'il apercevait une tombe, il se mettait à pleurer à haute voix, émettant un son semblable au mugissement d'un taureau. Passer toute la nuit dans un cimetière. Isa bin Umar, rahmatullah alayh, rapporte, Amr bin Utbah, rahmatullah alayh, se rendait la nuit au cimetière à cheval et s'exclamait, « Ô gens des tombes, le livre des actes s'est refermé et les actions se sont levées. » Il se penchait ensuite en avant et pleurait intensément jusqu'à ce qu'il revienne rejoindre la congrégation de la prière de Fajr. Notre état de détresse. Chers frères en islam, observez combien nos pieux prédécesseurs pleuraient par la peur d'Allah Azza wa Jal en visitant le cimetière. Notre état est tel que nous accompagnons les funérailles au cimetière en riant et revenons sans faire la moindre attention. Il fut un temps où les musulmans se couvraient le visage lorsqu'ils accompagnaient des funérailles, pleurant en se souvenant de leur propre mort. Ils contemplaient comment ils seraient eux aussi portés sur les épaules d'autres personnes jusqu'à la tombe, tout comme ils le faisaient pour quelqu'un d'autre à l'époque. Leur chagrin était tel que si quelqu'un voulait exprimer ses condoléances, il ne savait pas qui étaient les héritiers du défunt. Tout le monde était dans un état de tristesse intense. La preuve de l'islam, l'imam Muhammad al-Ghazali rahmatullah alayh déclare « Il fut un temps où tous ceux qui accompagnaient un cortège funéraire se couvraient le visage et pleuraient. Si quelqu'un voulait présenter ses condoléances, il ne savait pas à qui les présenter. » De nos jours, les gens pleurent lors des funérailles, mais pas tous. Seule une poignée d'entre eux peuvent être vus en train de pleurer. Et même dans ce cas, ils sont peu à pleurer par crainte d'Allah Azza wa Jal ou en se souvenant de leur propre mort. Ils pleurent surtout par inquiétude ou par amour pour le défunt. La tombe, une affaire délicate. La tombe est un sujet d'une profonde sensibilité. Si nous y réfléchissions vraiment, notre insouciance cesserait immédiatement. Le problème est que nous n'y pensons pas du tout. Imaginez que l'on vous mette sous la menace d'une arme, que l'on vous emmène dans une fosse et que l'on vous dise « Pendant un certain temps, si vous vous laissez enterrer vivant dans cette fosse, comme un défunt, je ne vous tirerai pas dessus. » Dans cette situation, le choc de la possibilité d'être enterré peut avoir sur vous un impact plus fort qu'une balle. Vous vous inquiéterez de ce qui vous arrivera dans cet espace sombre, solitaire et étroit. La tombe, proprement dite, est une affaire plus grave encore. Avant d'y arriver, le défunt voit ceux qui le lavent et l'enveloppent. Il se sent également porté sur les épaules d'autres personnes jusqu'au cimetière. Il entend les gens dire « Tenez à partir d'ici », alors que son corps est descendu dans une tombe. Bien qu'il ait vu, entendu et vécu tout cela, le défunt est incapable de parler. Enfin, ils sont placés dans la tombe. Des dalles sont fixées au-dessus d'eux, contre les parois de la tombe. Lorsque la dernière dalle est mise en place, la tombe devient totalement obscure pour le défunt. Le moindre rayon de lumière disparaîtra lorsque les gens commenceront à verser de la terre dans la tombe. « Mettez-en ici !» crient certains. D'autres disent « Il y a un trou ici, assurez-vous de le remplir. » De cette manière, la tombe est remplie jusqu'à la surface. Tout le monde fait ensuite l'invocation et rentre chez soi. Le défunt voit, entend et ressent tout cela, à tel point que lorsque les gens les laissent seuls dans la tombe obscure et s'en vont, ils entendent le bruit de leurs pas. Un hadith explique « Le défunt entend les sons produits par les chaussures de ceux qui l'ont enterré. » Les anges, Munkar et Nakir, entrent dans sa tombe et l'interrogatoire commence. Le défunt est récompensé ou puni en fonction de ses bonnes et mauvaises actions. Par exemple, si le défunt était impliqué dans le vol, l'alcoolisme ou la fornication et qu'il est mort sans se repentir, deux serpents sont envoyés dans sa tombe qui rongent sa chair, ma'azallah. Deux serpents vont mordre la chair. Masrouk, rahmatullah alayh, a narré « Quiconque est mort alors qu'il était impliqué dans le vol, la consommation d'alcool ou la fornication, deux serpents sont désignés pour ronger sa chair. » De même, si le défunt était malhonnête ou frauduleux, le feu sera allumé dans sa tombe. Quand un châle s'enflamme. Le compagnon, Abu Rafih radiallahu anhu, rapporte, un jour, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait par Al-Baqi, il dit « Ouf, ouf, ouf ». Il n'y avait que moi avec lui à ce moment-là. J'ai demandé humblement « Ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que s'est-il passé ?» Il répondit « C'était la tombe d'un tel. Je l'ai envoyé comme collecteur de zakat dans la tribu d'un tel. Il a volé un manteau et maintenant il est vêtu de quelque chose de semblable fait de feu. » Ceux qui s'adonnent au vol, à l'alcool et à la fornication doivent réfléchir profondément. S'ils meurent sans se repentir et entrent dans la tombe, alors qu'Allah Azzawajal et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, sont mécontents d'eux, alors ce n'est pas un, mais deux serpents qui rongeront leur chair dans la tombe. Les amis qui leur ont pris de l'argent pour acheter de l'alcool les enterreront et retourneront chez eux sans se soucier de rien. De même, ceux qui sont impliqués dans la trahison, le mensonge et la fraude devraient réfléchir. S'ils quittent eux aussi ce monde sans se repentir et que des flammes s'allument dans leur tombe, que deviendront-ils? La sécurité réside dans le repentir immédiat. Par Allah, le châtiment de la tombe sera autrement insupportable. Il se peut que Satan vous séduise avec l'espoir d'une longue vie et qu'il essaye de vous faire éviter de vous repentir maintenant. Même si vous vivez longtemps, combien de temps durera cette vie? Peut-être 60 ou 70 ans tout au plus, car les gens vivent généralement aussi longtemps. Pourtant, la mort et la tombe sont des réalités auxquelles personne ne peut échapper. Il n'y a aucune garantie de vie, car même les bébés d'un jour meurent. Même si vous êtes en pleine forme physique et que vous savez vous protéger, rien ne peut vous protéger lorsque l'ange de la mort, alayhi salam, vient s'emparer de votre âme. Votre bonne santé et votre force n'arrêteront pas cela. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Si un tremblement de terre se produit maintenant, des centaines de milliers de personnes risquent de mourir. Chaque jour, des inondations, des tremblements de terre et d'autres catastrophes naturelles se produisent, dans lesquelles ni la santé, ni la jeunesse d'une personne ne peuvent la sauver. La mort frappera chacun d'entre nous, quoi qu'il arrive. Nous ne pensons pas à notre mort imminente. Malheureusement, la mort est un sujet sur lequel nous fermons les yeux. Nous écoutons des discours à ce sujet uniquement parce que tout le monde le fait. Ce que nous entendons entre dans une oreille et sort par l'autre. Le dernier prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré « Si les animaux savaient ce que vous savez concernant la mort, vous ne pourriez pas manger un animal bien nourri. » Cela signifie que les animaux deviendraient émaciés et maigres par peur de la mort, alors que l'humanité erre sans crainte, mange excessivement et commet des péchés inconsidérés tout en riant. Le compagnon, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, a expliqué « Quiconque rit en commettant un péché entrera en enfer en pleurant. » Nous venons d'écouter un hadith décrivant l'état des animaux s'ils savaient ce que nous savons sur la mort. Voici une histoire qui nous donne une autre leçon émouvante à ce sujet. Un chameau qui ne mangeait plus. Le prophète Isa alayhi salam passa un jour près d'un troupeau de chameaux et trouva l'un d'entre eux en train de jouer plus que les autres. Il s'amusait à enfoncer sa tête dans les corps des autres, à les mordre et à sauter partout. Il s'approcha de ce chameau et lui dit à l'oreille « Innaka mayyitun », c'est-à-dire « tu vas mourir ». Il dit cela et continua. Les pensées de mort envahirent le chameau au point qu'il cessa de jouer. Il cessa même de manger et commença à perdre du poids. Quelque temps plus tard, lorsque le prophète Isa alayhi salam repassa par là, il vit le chameau se tenant à l'écart des autres. Il était décharné et extrêmement maigre. Il interrogea l'éleveur de chameaux qui lui répondit « Je ne sais que ceci. Un individu lui a dit quelque chose à l'oreille, ce qui l'a poussé à cesser de manger. Il se tient maintenant à l'écart des autres chameaux et reste là. » Chers frères en islam, un chameau, qui n'est qu'un animal, a simplement appris qu'il allait mourir. Bien qu'il n'ait pas eu à connaître les affres de la mort, de la tombe ou du châtiment du feu de l'enfer, il tomba dans un état d'inquiétude immense et perdit tout sentiment de bonheur. Certains animaux seront envoyés en enfer, mais pas pour y être punis. Ils administreront plutôt le châtiment à ceux qui se trouvent en enfer et n'y ressentiront aucune douleur. Tel est l'état d'un animal lorsqu'il entend parler de la mort. D'autre part, l'état de l'humanité et des musulmans est tel que, bien que sachant que la mort est une réalité, ils restent complètement négligents pour s'y préparer. Ils se détournent du fait qu'ils seront un jour descendus dans une tombe et récompensés pour leurs bonnes et mauvaises actions. Même si nous évoquons parfois la mort lors de rassemblements émouvants inspirés par la sunna, l'idée s'estompe rapidement. Certaines personnes baissent la tête, écoutent attentivement le discours et se lamentent sur leurs péchés. Cependant, peu de temps après la fin du discours, elles retombent dans la routine des plaisanteries et des rires excessifs avec leurs amis. Ces personnes n'accomplissent même pas la prière de Fajr le lendemain. Même si elles le font, elles continuent à manquer celle de Zohr. Malheureusement, si elles parviennent à accomplir toutes les prières de la journée, elles ne se lèvent pas pour Fajr le jour suivant. Elles retombent ainsi dans le même schéma de négligence. Toutes les tombes ne sont pas identiques à l'intérieur.
Chers frères en islam, lorsque nous nous rendons au cimetière, toutes les tombes semblent se ressembler extérieurement, se présentant comme des monticules de terre. Pourtant, à l'intérieur, elles ne se ressemblent pas. Certaines tombes sont des jardins, tandis que d'autres sont des fosses de feu. Dans certaines, les habitants jouissent des bienfaits d'Allah Azza wa Jal, et dans d'autres, ils sont frappés par le châtiment. Muhammad bin Sammak, rahmatullah alayh, fit un jour la remarque suivante en voyant le cimetière. « Ô gens, ne vous laissez pas tromper par le silence de ces tombes. Leurs habitants ne sont pas les mêmes. Certains sont dans une grande souffrance et d'autres dans la félicité. Toute personne intelligente devrait réfléchir profondément à la tombe. » Soufiane Sori rahmatullah alayh déclare « Celui qui se souvient souvent de la tombe la trouvera semblable à un jardin du paradis. Celui qui s'en désintéresse trouvera que c'est une fosse de l'enfer. Que va-t-il advenir de nous ? Nous n'aimons même pas entendre parler de la mort. Vous rencontrerez de nombreuses personnes qui n'assistent pas au rassemblement inspiré par la sunna parce qu'elles ont l'impression que le fait que Dawat Islami mentionne la mort de manière répétée gâche leur humeur. Ces personnes sont invitées à réfléchir à la manière dont nos pieux prédécesseurs rappelaient aux gens la mort dans leurs discours. Ô esclaves d'Allah Azza wa Jal, souvenez-vous de la mort. Le quatrième calife de l'islam, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, a déclaré dans l'un de ses sermons « Ô esclaves d'Allah, souvenez-vous de la mort et préparez-vous-y, car il est impossible de l'éviter. Elle vous saisira si vous essayez de lui barrer la route. Elle vous rattrapera si vous essayez de fuir. La mort a été attachée à vos fronts. Cherchez donc un moyen d'éviter son châtiment. Préparez-vous à la mort, car la tombe vous attend et vous appelle en hâte. Rappelez-vous toujours que la tombe est soit un jardin, soit une fosse du feu de l'enfer. Si, par crainte de la mort, nous commençons à accomplir nos prières à temps et nous abstenons de commettre des péchés, nous nous retrouverons à l'aise dans nos tombes. Si nous devenons insouciants à la mort et menons une vie de péché, il n'y aura rien d'autre que de la terreur pour nous dans la tombe. La vie après la mort est plus puissante que la vie d'avant. Les facultés d'écoute et de vision sont amplifiées. Si nous sommes couchés dans une tombe ouverte et que nous essayons de regarder dehors, nous ne verrons pas ce qui se passe au-dessus du sol. Après la mort, même si la tombe a été refermée, le défunt est capable de voir qui va et vient au-dessus du sol et d'entendre leur voix. C'est pour cette raison que nous saluons le défunt avec le salam en entrant dans le cimetière en disant « Assalamu alaykum ya ahlal qubur, yaghfirullahu lana wa lakum, antum salafuna wa nahnu bil athar ». Traduction « Que la paix soit sur vous, ô habitants des tombes. Qu'Allah vous accorde, ainsi qu'à nous, le pardon. Vous êtes nos précurseurs et nous devons suivre. » On fait le salam à celui qui entend et répond, comme l'explique le mufti Ahmad Yarhan Naimi rahmatullahi alayh. Il est sunna de faire le salam en premier en entrant dans le cimetière et de dire « Assalamu alaykum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insha'allahu bikum la lahiquna ». Ensuite, la récompense des bonnes actions doit être transmise au défunt. Cela signifie que le défunt voit et reconnaît ceux qui se trouvent à l'extérieur et entend leur discours. Sinon, il ne serait pas permis de les saluer en faisant le salam, car il n'est pas permis de faire le salam à ceux qui ne peuvent pas entendre ou répondre. Prenons l'exemple de la personne qui dort et de celle qui accomplit la prière. Nous ne pouvons pas les saluer avec le salam. Cela prouve que les personnes décédées entendent et répondent à notre salam. Rappelez-vous, non seulement les musulmans, mais même les mécréants voient et entendent après la mort. En outre, nos pieux prédécesseurs entendent et voient de plus loin dans leur tombe que le croyant moyen décédé. Par exemple, si nous appelons la couronne des saints, le cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullah alayh, il entendra nos voix par la permission d'Allah Azza wa Jal, car il est le chef des saints. Réfléchissez à la façon dont les télécommunications ont progressé au point que nous pouvons parler à nos amis de l'autre côté du monde et qu'ils peuvent nous entendre, même s'il n'y a pas de fil, etc. entre nous. Si tel est le pouvoir d'une connexion technologique, quel sera le pouvoir d'une connexion spirituelle? Après la mort, l'ouïe et la vue de chaque personne sont amplifiées. Le défunt voit ceux qui viennent se recueillir sur sa tombe et entend leur voix. Si nous ne sommes pas punis dans la tombe, si les serpents et les scorpions n'y pénètrent pas, et si nous y sommes seulement ensevelis, comment pourrons-nous supporter la tombe obscure pendant des milliers d'années jusqu'au jour du jugement? Nous ne pourrons pas non plus aller voir un ami, ni appeler quelqu'un auprès de nous. Si quelqu'un vient, il récitera la sourate Fatiha, regardera les tombes ici et là, puis s'en ira, tandis que nous lui jetterons des regards pleins de regrets. Supposons que nous soyons emprisonnés dans un manoir et que nous disposions de tout le nécessaire et de tout le luxe. Lumière, ventilateur, chambre climatisée, coussin moelleux, nourriture et boissons sont à notre disposition. Supposons aussi que nous disposions de tout cela, mais que nous soyons entièrement seuls et qu'il nous soit interdit de recevoir la visite de qui que ce soit. Si c'était le cas, nous ne pourrions y passer que quelques jours au maximum. En fait, certains d'entre nous seraient incapables de passer une seule journée seuls. Si nous ne sommes pas prêts à rester seuls dans un manoir aussi luxueux pendant un jour, comment resterons-nous seuls pendant des centaines d'années dans la tombe ? Aujourd'hui, piégés dans ce monde coloré, nous avons oublié nos tombes, alors qu'il est dit que la tombe appelle 5 fois par jour. Ô homme, tu marches sur mon dos alors que ta faim est dans mon ventre. Ô homme, tu ris sur mon dos, bientôt tu seras enterré en moi et tu pleureras. Ô homme, tu dévores l'illégal sur moi et bientôt les vers te dévoreront dans mon estomac. Ô homme, tu te réjouis sur mon dos, bientôt tu t'affligeras quand je t'envelopperai. Par Allah, il y a là un grand avertissement. Si seulement nous pouvions en tirer une leçon qui changerait notre vie avant que l'on annonce notre décès, que l'on appelle des frères pour nous baigner, que l'on nous enveloppe dans un linceul funéraire et que l'on nous descende dans nos tombes. Souvenez-vous de la mort et repentez-vous pour vos péchés avant que tout cela n'arrive. Comment se souvenir de la mort ? Chers frères en islam, voici quelques méthodes pour se souvenir de la mort. Écoutez-les attentivement. Elles vous aideront à vous souvenir de la mort et à vous y préparer. Numéro 1. Participer aux funérailles. Numéro 2. Prendre l'habitude de visiter le cimetière. Numéro 3. Écouter des discours sur la mort. Numéro 4. Lire des récits liés à la mort. Numéro 5. Voyager dans les Madani Kafila de Dawat Islami qui contiennent des discours et des leçons sur la mort. De cette manière, on se souviendra de la mort et on évitera les péchés. Un hadith explique « Kafa bil mauti wa ridha » c'est-à-dire « La mort est un conseil suffisant ». Faites l'intention de voyager pendant au moins 3 jours dans un Madani Kafila chaque mois. Il faut également s'efforcer d'accomplir chaque prière à l'heure. Faites l'intention sincère qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne manquerez plus une seule prière ou un seul jeûne du Ramadan et que vous ne regarderez plus de films et n'écouterez plus de musique. Ayez l'intention d'obéir à vos parents et d'éviter de les ennuyer. De même, ayez l'intention de ne pas commérer, médire, de ne pas accuser les autres et de ne pas manquer de respect aux musulmans. Dissimulez leurs défauts. Prenez la résolution de participer chaque semaine au rassemblement de Dawat Islami inspiré par la Sunna. Qu'Allah Azza wa Jal nous donne la capacité d'accomplir de nombreuses bonnes actions, d'éviter les péchés et de nous préparer à l'au-delà avant notre mort. Amin. Bijahi khatamin nabijin sallallahu alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ala Muhammad.